Est-ce qu'on est de retour? On a le son, là. Là, on a le son de l'image. Hey, merci, Jonah Presser, donc, qui est directeur communication et relations avec les médias au 1642. Je dis directeur, c'est peut-être leader, c'est peut-être, je m'excuse si je m'enchouille le nom du poste exactement, mais il est en charge des communications avec les 1642 et la courroie de transmission au niveau des communications. Donc, merci à Jonah d'avoir pris le temps pour nous aujourd'hui de nous rencontrer. Mais là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va se parler du 11 type. Êtes-vous prêt? Je sens que je vais me faire tirer des roches pour les prochaines minutes, mais c'est pas grave, c'était le but. C'était de vous parler du 11 type du CF Montréal. Alors, on va regarder ça dans son ensemble. Et je vais vous présenter mon 11 type. Je l'ai présenté sur les réseaux sociaux un petit peu plus tôt. Aujourd'hui et cette semaine, là, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires sur le sujet. Donc, on regarde ça sans plus tarder. Jonathan Sirois. On va partir par là, on est pas mal sûr. Êtes-vous d'accord? Jonathan Sirois devant le filet sera notre gardien de but numéro 1. Et là, quand je parle de 11 types, c'est au début de la saison 2024. C'est peut-être pas après 10 matchs, après 12 matchs, après 15 matchs. C'est ce que je vois pour le début de la saison. Donc, Jonathan Sirois devant le filet, Corbeau, Waterman et Campbell dans la charnière centrale. Premier point d'interrogation, ce sera Campbell. On s'en parle dans quelques instants. Edwards et Roanne dans les couloirs. Wanyama et Piette dans le milieu. Yankov-Opoku dans le milieu offensif et Coccaro qui va venir jouer son rôle de numéro 9 au devant du filet. Donc, ce que je voulais démontrer avec ce 11 type, c'est le manque de profondeur, je pense qu'on peut le dire comme ça, défensivement chez le CF Montréal. La première question que les gens m'ont posée, est-ce qu'on voit vraiment George Campbell avec Corbeau et Waterman? Plusieurs me mentionnaient, faudrait peut-être mettre ça à cet endroit-là. Je vais vous donner les accès aux commentaires. On va ouvrir la chatroom et voilà, c'est fait. Je vais juste enlever, si vous me le permettez, le petit logo-là, qu'on voit bien vos commentaires. Donc, si on regarde ça dans l'ensemble, moi, ce que j'ai mentionné, c'est avec l'arrivée de Coccaro, avec l'arrivée de Yankov, il me semble que je suis vraiment près de la caméra, comme ça va être mieux. Je pense qu'on est en mesure d'aller chercher un bon 11 type. Par contre, au niveau de la profondeur défensivement, ce sera mince. Je veux prendre le temps de saluer Sam qui est là avec nous. Bonsoir à toi, Sam, bienvenue. Donc, ça sera très mince défensivement. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, Jeff, je pense que ça doit être sur le 11 de départ devant Campbell. Donc, ça nous laisserait une charnière, ça sur la gauche. Il est gaucher, on va l'exploiter. Avec. Là, on pourrait avoir un débat. Est-ce qu'on met Waterman au milieu? Est-ce qu'on met Gabriele Corbeau? On pourrait retourner Waterman à sa place sur la droite, mais Waterman a évolué quand même au milieu de cette charnière centrale-là la saison dernière. Donc, ça serait possible qu'on le laisse là et qu'on fasse évoluer Gabriele Corbeau sur la droite. Je pense que Corbeau, à long terme, est le général en défensive du CF Montréal. Je le vois donc arriver au milieu de la charnière centrale. Samuel nous dit, Jeff, personnellement, je commence à trouver vraiment grosse la quantité de défenseurs, ça commence à faire beaucoup, beaucoup. C'est... Le problème n'est pas, Sam, au niveau de la quantité de défenseurs qui sont disponibles pour le CF Montréal, mais bien au niveau de la qualité de ces derniers. Le CF Montréal doit progresser énormément au niveau de sa défensive. Parce que je le sais que vous allez me dire, Jeff, on n'a pas marqué la saison dernière et vous avez parfaitement raison. Par contre, défensivement, on est l'équipe qui a une des équipes qui a concédé le plus de buts défensivement la saison dernière. Donc, au niveau des buts accordés, c'est une catastrophe du côté du CF Montréal et principalement sur la route. Jonathan Sirois, malgré cette atrocité défensive, je pense qu'on peut parler d'atrocité défensive la saison dernière, malgré le départ de Kamal Miller, malgré le départ de Rudy Camacho, Jonathan Sirois a réussi à présenter 11 jeux blancs lors de la saison 2023. 11 jeux blancs, ça propulse Jonathan Sirois comme étant le quatrième meilleur gardien de la Ligue au niveau des jeux blancs. Une stat qui ne mérite pas d'être exclue des séries éliminatoires. Je vous rappelle, le CF Montréal n'a pas participé aux séries éliminatoires en 2023, vous le savez. Donc, malgré 11 jeux blancs, le CF Montréal a été exclu des séries. Donc, défensivement, il y a une carence. Défensivement, on a un problème. Et là, on sort Kamal Miller en cours de saison. On sort Rudy Camacho, qui est le général, pour entrer Sosa, qui est en prêt, qui est là pour une seule saison et il n'en fera pas plus. Puis là, on me dit, Jeff, on est solide défensivement, on n'a pas besoin de s'améliorer. Je ne comprends pas comment le CF Montréal peut avoir une défensive supérieure à ce qu'il a eu la saison dernière avec le simple ajout de Sosa. Et là, Alvarez doit faire ses preuves, Sosa doit faire ses preuves, parce que on peut être excité et on est souvent excité. Puis c'est le fun d'avoir ce feeling-là. Mais l'arrivée de Coccaro, l'arrivée de Yankov, ça peut nous aider. Docteur Foot est sur YouTube. On me dit que les commentaires sont désactivés. Je vais essayer d'aller vous arranger ça dans quelques instants. Docteur Foot, j'essaie de remédier à la situation. Donc, ce que je mentionnais, c'est que je prends le commentaire, j'ai perdu le fil, je m'en excuse, je vais vous revenir. Un gardien ne peut pas tout faire tout seul, ça prend une bonne défensive. Exactement. Et Jonathan Sirois a rempli sa part du deal. Mais là, on a un problème défensivement. Ça me revient. Ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est que là, on est bien excité par la venue de Sosa. On est excité par la venue de Coccaro et de Yankov. Il nous fallait un 9, il nous fallait un 10. Ils arrivent, ils sont là, vont nous aider. Et défensivement, Sosa peut être bon. Vous avez parfaitement raison, mais il faut tenir compte également de la réalité des statistiques de ces joueurs-là. Sosa arrive ici et n'a pas une longue feuille de réussite. Oui, il a joué 7 matchs en Ligue 1, mais pas en Ligue 1, mais avec Bologne, je m'excuse. Mais si on regarde les statistiques de Sosa, et si vous avez coaché, si vous êtes un peu technicien, vous allez comprendre. Sosa, que ce soit pour les duels au sol, que ce soit pour les duels de la tête, il n'a pas gagné plus de 50% de ses duels. Donc, il était à peu près là, à 43-47 pour ses duels. Et ça, c'est problématique. Si un défenseur ne gagne pas au minimum un duel sur deux, ben t'es dans le trouble. Tu mets ton gardien dans le trouble, tu mets ton équipe dans le trouble, et là, t'es la dernière ligne. Si on regarde les défenseurs les plus performants de la MLS présentement, ils gagnent environ 70% de leurs duels. Plus ou moins. Si on regarde là, les défenseurs, par exemple, de Cincinnati la saison dernière, ils gagnent 70% de leurs duels. Avec ça, on est à 43-47 dans ces eaux-là. Donc, c'est difficile. Martin nous dit, le problème en défense l'an passé était principalement dû au contrôle en milieu de terrain qui était très faible l'an passé. Et là, vous avez parfaitement raison. Par contre, lorsque je regarde la réalité de la saison dernière, on mentionnait et on a souvent mentionné que l'un des problèmes majeurs était qu'on était très défensif lorsqu'on utilisait à la fois Wanyama et Samuel Piet. Ce que j'ai fait, là, c'est je les ai mis les deux sur le 11 type, mais je pense que ça peut être problématique de jouer très défensif. C'est pas nécessairement ce qu'on veut chez le CF Montréal. On veut avoir le ballon, on veut avancer, on veut pouvoir être devant, créer le jeu et s'imposer. Puis ça, il faut le faire. Donc, si on veut faire ça, c'est sûr que ça va nous mettre dans le trouble défensivement. On a vu un Victor Wanyama au dugout la saison dernière, et ça peut être un gros problème, parce que ça peut coûter des points, ça peut, pour vrai, coûter des erreurs défensives importantes. Là, avec un Victor Wanyama qui est de bonne humeur, qui va bien, qui a marqué au premier match pré-saison, ça pourrait être mieux. Docteur Foot, si tu veux faire un test, les commentaires devraient être activés sur YouTube. Donc, le problème en défense était le contrôle au milieu qui était très, très faible. C'était difficile au milieu du terrain la saison dernière. J'en suis conscient. Samuel nous dit, pour moi, Yankov tombe notre numéro 10. Moi, je pense également. Mais, même problème que ça. Et c'est le même problème avec Coccaro. Coccaro, c'est des joueurs qui arrivent sans qu'on les ait vus jouer, sur lesquels on fonde énormément d'attentes, sur lesquels on est énormément excité, mais qui devront prouver ce qu'ils valent. C'est sûr que lorsqu'on déplie un 2 millions pour aller chercher des joueurs, on s'attend à ce qu'il y ait un certain niveau de jeu. Mais parfois, ça ne veut rien dire. Patrick White nous dit, il y en a beaucoup qui croient en Alvarez aussi. Oui, effectivement, Alvarez a démontré des belles choses, mais il devra confirmer cette saison et faudra voir comment ça va arriver. Mais il y a un enjeu, il y a une progression à avoir, il y a une façon de l'amener sur le terrain. Et pour moi, ta valeur sûre, c'est que tu sais ce que va t'apporter Waterman, Corbeau, Campbell. C'est pour ça que je vous dis, on part avec ça. Je pense qu'il faut partir avec ça. Partant avec Duke, qu'en penses-tu? Sincèrement, je pense pas qu'on ait été chercher un 10. Et c'était une lacune. C'était une lacune chez le CFA Montréal, ce milieu créatif. Je crois sincèrement qu'on va y aller avec Yankov. Mais Yankov, si on compare, Mihailovic a eu un début très lent. Matko Miljevic n'est jamais parti. Ahmed Hamdi n'a jamais décollé. Alors, on peut être excité, mais faut rester ludique dans tout ça. Pat White nous dit, on n'a plus Koné. Regardez, j'ai le maillot. On n'a plus Koné pour faire des liens dans le milieu. On a besoin d'un vrai 8, alors Chouinard doit être partant. Et ça, c'est le plus gros. La plus grosse chicane qu'on va avoir, gang, ce soir, ça va être au niveau de Chouinard. Parce que là, Mathieu Chouinard, j'y crois. Ben, pas que j'y crois pas, c'est pas vrai. Mathieu Chouinard est notre MVP pour la saison 2023. Mathieu Chouinard a rendu de fiers services à cette formation-là, a été le chouchou d'un entraîneur-chef qui a connu énormément de difficultés, Hernan Lozada. Et dans tout ça, il aura eu une bonne saison parce qu'il aura eu énormément de temps de jeu. Donc, il a eu beaucoup de volume de jeu. Est-ce que Mathieu Chouinard a été meilleur en 2023 qu'en 2022? Je ne suis pas certain. Je suis pas certain qu'il a été un meilleur joueur. Il a été un joueur plus utilisé en 2023 qu'en 2022. Il a été un joueur, je suis obligé de vous le concéder, qui a performé comparativement à ses collègues de travail. Mais c'est le niveau de ses collègues qui n'était pas à la hauteur et non Mathieu Chouinard qui était up. Mathieu Chouinard est un Québécois, un joueur apprécié du public. L'image un peu de cette concession-là, parce qu'on s'identifie à un Mathieu Chouinard. C'est un travaillant, c'est un gars qui mouille le maillot et c'est un gars qui peut dépanner l'entraîneur-chef à plusieurs positions sur le terrain. On l'a vu en 6, en 8, en 10, latéral gauche, latéral droit. Il peut évoluer à peu près partout sur le terrain. La saison MLS est longue. La saison MLS n'est pas un sprint, mais un marathon. L'entraîneur-chef doit donc avoir des cartes à jouer dans son jeu. Parce que tu ne gagnes pas avec ta titularisation. Et vous allez vous en rendre compte cette saison avec Miami. On l'a vu la saison dernière avec Toronto. Tu gagnes avec ta profondeur. Et les équipes qui manquent de profondeur sont celles qui, malgré des séries de succès à court terme, ne sont pas capables de se rendre au bout du périple et mettre la main sur une coupe MLS. Parce que la coupe MLS, tu la gagnes avec la profondeur. Si ton équipe n'est pas moins bonne lorsque tu procèdes à des changements que celle de ton adversaire, c'est sûr que tu vas gagner. Si tu réussis à maintenir un niveau de jeu acceptable, intelligent et logique, lorsque tu procèdes à tes changements, ben c'est là que tu vas gagner. Donc, d'entrer en milieu de match, un Mathieu Chouinard, alors que tu peux le mettre partout. Tu es fatigué sur la gauche, tu es fatigué au milieu, tu es défensif, tu es fatigué au milieu offensif, tu es fatigué sur le flanc droit, peu importe l'endroit. Tu peux faire appel à Mathieu Chouinard, légendaire vainqueur du test du BIP. Il va être en jambes et il va t'en donner tout au long du match pour terminer ça. Ceci étant, il est le MVP. Plusieurs d'entre vous aimeraient le voir sur le 11 de départ. J'ai écouté tantôt Mathieu et Antoine du Ballon rond qui mentionnait, on ne peut pas ne pas revenir avec Mathieu Choignard, qui est ton MVP. Moi, ce que je vais vous répondre là-dessus, c'est que si en 2024, Mathieu Choignard est ton MVP, tu vas faire exactement la même chose qu'en 2023. Si en 2024, Mathieu Choignard est ton MVP, tu es dans le trouble, ton équipe ne participe pas aux séries d'après-saison. Mathieu Choignard a été MVP dans une année difficile pour le collectif du CF Montréal. Dans combien de formations à travers la MLS vous placez Mathieu Choignard titulaire au jour 1 sur le terrain? Et surtout, pour moi, si tu veux être clair, faut pas qu'il y ait de débat sur la position d'un joueur. Donc, Mathieu Choignard, avec quelle formation vous le placez titulaire et à quelle position? Parce qu'il y en a qui me disent que Mathieu Choignard, c'est un 6. Il y en a qui me disent que c'est un 8. Il y en a qui me disent que c'est un 8. Il y en a qui me disent que c'est un latéral. Il évolue partout. Il évolue partout. Donc, il fait le travail partout. C'est un généraliste. Ce n'est pas un spécialiste. Et si tu veux gagner en MLS, tu as besoin de 11 spécialistes sur le terrain, les meilleurs à leur poste, et de généralistes qui vont venir prendre cette profondeur-là, cette doublure. Ton 12 à 20 à 22 joueurs doit être en mesure de soit s'adapter à l'adversaire, si ton entraîneur-chef, Laurent Courtois, dans les circonstances, veut changer l'allure d'un match, veut changer la donne, tu dois être capable de livrer la marchandise avec la profondeur. Et c'est ce qu'il faut. Donc, pour ça, je n'ai pas mis Mathieu Choignard sur le 11 type et personne va me convaincre, mais on peut en discuter, qu'il va sur le 11 type. Si jamais ça vous tente de venir en discuter, que ce soit en audio ou en vidéo, il y en a qui ne veulent pas voir leur face, laissez vos caméras éteintes, il n'y a pas de problème. Je vous mets les liens partout sur l'ensemble des plateformes si vous voulez venir discuter du 11 type avec moi. Gênez-vous pas, ça va être le fun de prendre des appels. Mais je vais juste revenir sur les différents commentaires. Parce que là, je suis en retard et il y en a coulé beaucoup. Sébastien nous dit « Un gardien ne peut pas faire tout seul, on l'a pris. » Samuel nous dit « Alvarez a coûté cher, Campbell aussi, t'as Sosa en plus, Torkelsen, ils doivent jouer si on regarde le prix. » Moi, ce que je dis dans tout ça, Sam, c'est que faut pas que tu ailles de passagers à l'intérieur de ta formation. Puis, si le CF Montréal veut gagner, faut pas avoir de passagers. Qu'est-ce qui a coulé Hernan Lozada la saison dernière? C'est que dans son style de jeu qu'il voulait amener, il y avait trop de passagers parce que l'équipe n'était pas montée pour jouer le style qu'il voulait. Alors, plusieurs devenaient des passagers. On avait énormément de joueurs la saison dernière au milieu du terrain. Et après le Decision Day, après le dernier match, celui où le CF Montréal s'est fait éliminer, je ne suis pas capable, Sam, de te dire qui était le numéro 10 partant du CF Montréal. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un gros problème. Donc, il faut absolument avoir un 11 fort, avoir un 11 logique, avoir un 11 qui se tient. Donc, Alvarez a coûté cher. Oui, c'est sûr qu'on va le voir jouer. Campbell est encore jeune, encore en développement. Il va progresser. Mais, sincèrement, c'est pas mon préféré. Sosa qui arrive, moi, je pense que c'est la meilleure prise défensivement pour le CF Montréal. Mais, j'ai jamais... Puis, je vous le dis là, puis je l'ai déjà dit dans le passé, j'ai jamais compris les joueurs en prêt rentrant. Les joueurs en prêt sortant, tu t'en fous. Tu veux que ton joueur ait du temps de jeu puis qu'il s'en aille. Tu sais, c'est correct. Stratégiquement, tu t'en sers. Par contre, le CF Montréal, sachant très bien que ça arrive, que Sosa, qui a déjà pris des minutes avec Bologne, il est là pour une saison. On sait qu'on n'a pas trop de temps de jeu pour lui à Bologne. On sait qu'on ne veut pas le perdre. On sait qu'on est dans une saison très importante à Bologne présentement. Donc, on veut juste lui donner du temps de jeu, lui donner de l'expérience, et c'est correct. Mais lorsque le CF Montréal met sur le terrain Sosa, et je vous rappelle une chose, Laurent Courtois est un entraîneur capable de développer, de former des joueurs. Il l'a prouvé dans le passé. Sosa, qui arrive ici, qui va te rapporter à long terme 0 et 1 barre, chaque minute qu'il prend sur le terrain, c'est des minutes que ton équipe ne se développe pas. C'est des minutes où tes joueurs sont pénalisés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas... S'il y a un plan, il y a des options, il y a une possibilité de rachat du contrat de Sosa, on est ailleurs complètement, là, comprenez-moi. Mais lorsqu'on sait, puis ça semble être ça, que Sosa va s'amener et repartir à la fin de la saison, à part freiner le développement de tes jeunes, des Torkelsen, à quoi ça sert? Martin nous dit « Sosa sera peut-être vendu à Montréal après son prêt. » Tu as entièrement raison, Martin. Mais par contre, Sosa a pris des minutes à Bologne. Et si on regarde le contexte, Bologne est dans une course très intéressante présentement. Ils vont bien par les temps qui courent, ont des résultats qu'ils n'ont jamais connus dans le passé. Ils veulent pas jouer avec l'alignement. Mais ils savent très bien, d'un autre côté, qu'ils doivent construire eux aussi, comme toutes les autres formations, sur le long terme. Donc, Martin, tu veux pas laisser un Sosa assis sur le banc pendant toute une saison à regarder le train passer. Ce joueur-là va régresser. Tu veux pas que ça arrive. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu l'envoies en prêt et tu lui donnes des bonnes minutes. Alors, il faut voir c'est quoi l'intention. C'est quoi l'intention du CF Montréal et du FC Bologne dans cette transaction-là? Mais si on dit, regarde, on sert de Montréal pour lui donner des minutes de jeu, puis après on leur ship à Bologne lorsque la saison sera passée, bien, on a nuit au développement des jeunes. On a nuit au temps de jeu qu'on pouvait leur offrir. Donc ça, pour moi, c'est pas nécessairement une bonne chose. JP dit, la défense passe par l'attaque. Parlez-en à Wilfried Nancy, qui concède énormément, mais qui marque davantage que son adversaire. Au soccer, si tu veux gagner des matchs, JP, il y a juste une chose à faire, c'est marquer un but de plus que ton adversaire. Donc, oui, effectivement, la défense passe par l'attaque dans la mesure où, si tu dis, moi, je concède 3, mais je suis capable de marquer 4, il n'y a pas de problème là. Par contre, est-ce que c'est l'avenue que le CF Montréal doit prendre à court terme? Voyant les réalisations offensives de la saison dernière, Je suis pas certain que c'est vers là qu'on veut s'enligner. Martin me dit, le problème en défensive la saison dernière, Jeff, était dû au contrôle en milieu de terrain très faible. Oui, effectivement, ça, on l'a pris. Patrick White, il croit beaucoup en Alvarez. Je pense que oui. Partant avec Doug, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'on n'a pas été chercher Yankov pour rien. Le CF Montréal, pour moi, avait davantage besoin de Yankov que de Coccaro. Ça se peut que je me trompe. Il y en a plein qui disaient, Jeff, il nous faut un 9. Moi, je pense qu'un 9, si tu n'as pas de 10, ça ne sert à rien parce que ton 9, il est bon s'il reçoit des ballons. Mais l'ensemble, là, on a les deux. On est mort de rire. On a plus Koné pour faire des liens dans le milieu. C'est sûr. Mais Koné, là, Pat, juste un point sur Ismaël Koné. Ismaël Koné. On n'a plus Koné pour faire des liens dans le milieu, c'est vrai. Mais par contre, Koné, là, pas connu des succès à tout casser là, avec le CF Montréal. Koné, là, il n'a jamais joué une saison complète. Il a fait des apparitions par-ci, par-là, quelques beaux flashs. Je pense qu'il a profité d'un excellent timing avec l'appel sur la sélection nationale. Tout s'est enchaîné très, très, très rapidement pour lui. Mais je me souviens de l'avoir vu jouer à Rimouski. On n'était pas loin, là. On n'était pas loin de son entrée professionnelle. Donc, il a déboulé les échelons assez rapidement. Et, tu sais, des Ismaël Koné, il n'y en aura pas 50. Partant Yankov en doublure de Bryce Duke. Moi, je mets Bryce Duke en doublure de Yankov pour débuter. On va voir tout ça. De toute façon, William Saint-Jean, notre chroniqueur attitré à la couverture du CF Montréal, sera au centre Marie-Victorin demain pour suivre l'entraînement du CF Montréal. On sait que les gars étaient en pause hier et aujourd'hui, reprennent l'entraînement dès demain sur le coup de 10h30. Et William va être là. On va vous faire un topo là-dessus. William va vous faire un topo là-dessus. Et on pourra vous en dire plus là, sur Yankov, sur Coccaro, on ne sait pas. Le club n'a pas fait encore l'annonce officielle. Faudra attendre. On sait que Edwards arrive demain avec la formation. Il est à Montréal présentement. Il n'était pas avec le groupe jusqu'à maintenant. Mais sera là. Donc, dès demain, avec la formation. Parpeg nous dit, pour moi, Yankov devrait jouer au cœur du milieu de terrain avec une animation offensive comme un Mezella ou un Mitrian du côté de l'Inter. Peut-être que oui. On va le voir. Et moi, je fais confiance pour vrai à Laurent Courtois. J'ai hâte de voir comment il va déployer son animation. Mais pour l'instant, je vais le laisser aller. Et le prochain match hors concours du CF Montréal face à Atlanta sera présenté sur les réseaux sociaux d'Atlanta United. Donc, si vous suivez les comptes d'Atlanta United, vous aurez le match du CF Montréal. Ce qu'on n'avait pas là, pour le match face à Minnesota United. Parpec dit, pour moi, la solution passe aussi par un striker et un 10. Pas de double 10 ni de double pur striker. C'est sûr qu'il faut absolument... fallait consolider là, on l'a fait, du côté du CF Montréal. Faudra voir qu'est-ce que ça va donner. Mais pourquoi on ne considère pas Chouinard comme un latéral? Ben moi, pour moi, Chouinard, c'est un couteau suisse. Pour moi, c'est un joker dans le jeu de cartes de l'entraîneur-chef. Il peut jouer partout. Et tu dois l'utiliser comme ça. Tu dois t'en servir et en profiter. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Ça pourrait être vendu à Montréal, oui. Martin nous dit, même si Sosa vient avec nous pour un an, qu'il est dominant comme Binks, je le prends. pour justement renforcer notre défensive. Mais c'est le fun, Martin, si ça t'amène quelque chose. Parce que, tu sais, Binks a laissé, malgré tout, un trou un peu béant. Ça a pris du temps avant qu'on remplace son départ. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu développer des joueurs à sa position alors que lui prenait le temps de jeu. Donc, où... Tu sais, regarde-le dans une vue d'ensemble un peu plus éloignée, Martin. Comment Binks a aidé dans le développement à long terme le CF Montréal? Et ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé le CF Montréal. Mais dans une fenêtre à court terme où le CF Montréal est dans une course pour les sommets, où le CF Montréal a une chance. Rappelez-vous 2022, où on se disait pendant le mercato d'été, ils vont-tu faire l'ajout qui va nous faire gagner la fameuse Coupe MLS? On l'a-tu attendu dans le mercato 2022, ce joueur-là qui n'est jamais arrivé? Mais là, là, tu dis, oh, le CF Montréal est à ça de confirmer sa place parmi les grands, de mettre la main sur une coupe MLS, on va envoyer Sosa en prêt. Donc, Sosa va venir pallier des besoins défensifs. On le sait qu'il va être là, qu'il va être stable, qu'il va être solide. On va le mettre là et on va le ramener à Bologne après. J'ai zéro problème avec ça. Parce que là, on va goûter à autre chose. On va goûter à la victoire. On va gagner des matchs. On va gagner des trophées. On va gagner de la vaisselle, chose qu'on n'avait pas fait encore dans le passé. Donc ça, là-dessus, j'ai pas de misère avec ça. Mais pour le reste, je suis obligé de vous dire que j'ai de la difficulté. Donc, on retourne une dernière fois avant de se quitter au 11 type BBN Soccer. Sirois, Corbeau, Waterman, Campbell. Je suis prêt à changer Campbell pour Sosa. Mais comme je vous dis, je veux le voir faire ses preuves avant, s'acclimater. Il arrive ici. Campbell, il est prêt. Il sait comment ça marche. Il connaît la ligue. C'est pas le meilleur. Vous avez parfaitement raison. Mais on n'a pas à l'adapter. Le CF Montréal, n'oubliez pas une chose, gang. N'oubliez pas une chose, le CF Montréal débute la saison avec 6 matchs à l'étranger. Le CF Montréal fait partie des formations qui présentent la pire fiche la saison dernière pour les matchs sur la route. C'était la force en 2022. On avait battu à peu près tous les records qui existent pour les matchs sur la route. On doit prendre des points tôt dans la saison. Si on veut réussir la saison 2024, le seul réel enjeu pour Laurent Courtois est de réussir à prendre plus de points sur la route en 2024 qu'on l'a fait en 2023. Tu ne veux pas briser 2-3 matchs en partant avec une formation qui doit s'acclimater ensemble. On sait que Coccaro va être là, devra s'acclimater. On sait que Yankov va être là, devra s'acclimater. Est-ce qu'on veut, en plus de ça, rajouter un autre joueur en adaptation défensivement? Moi, je pense que non. Je pense que ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut chez le CF Montréal. Edwards, Rouen, je pense qu'il n'y a pas trop de contestation. Lasseter, en plus, est parti avec son équipe, sa sélection nationale présentement. Donc, tout ça devrait rentrer dans l'ordre. On a Lassie dans la profondeur pour Rouen. On va avoir Lasseter qui va se battre avec Edwards. Saine compétition, j'aime ça. Wanyama, Piet, on a Chouanière, on a Saliba. Un facteur qu'il ne faut pas négliger également, il s'appelle Rida Zouir, qui voudra prendre des minutes, donc il est là. Yankov, Opoku et Kokaro sur le devant. On a Mason Toy, on a Chinonzo Ofor, on a Sunusi Ibrahim. Faut pas les négliger non plus. Mais comme je vous dis, ça devient de la profondeur. Pour l'instant, pour moi, à mes yeux, les valeurs sûres sont Kokaro, Yankov et Opoku. Mais Kokaro et Yankov, même problème que Sosa. On les a pas nécessairement vus évoluer. Est-ce qu'ils vont s'adapter? Est-ce qu'ils vont bien réussir? On est emballé, on est excité. On espère que ça va fonctionner. Mais au moment où on se parle, on n'a pas de garantie que ça va fonctionner. Donc, c'est le 11 type que je prévois, que j'entrevois. C'est les explications que j'avais à vous donner là-dessus. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je prends le temps de remercier Jeune Appresseur des 1642 qui a été avec moi dans ce balado-là. Merci pour ton temps. Jonah, très, très apprécié. Si vous avez aimé la formule entrevue, on va revenir là, dans le futur de plus en plus avec ça. On s'en va vers là. On a présenté la liste des balados qui vont tenir l'antenne, appelons ça comme ça, cette saison. Donc, BBN Soccer que vous écoutez présentement, MLS 24/7 qui sera une fois par semaine. Un résumé des activités de la MLS. On laisse tomber le QG du soccer pour essayer de se concentrer sur ce qu'on fait de mieux. L'antichambre du soccer revient. L'antichambre du soccer BBN. L'antichambre du soccer Vibe Soccer cette saison. Donc, on va être en direct de notre studio chez Vibe Soccer pour vous livrer une émission de débat sur tout au long de la saison. Et on va ajouter Caviar, qui est une émission complètement différente, quelque chose qu'on ne vous a pas présenté encore, quelque chose qui va retenir l'attention, qui va faire beaucoup de bruit, du moins je l'espère, c'est ce que je pense, mais Caviar devrait arriver assez rapidement, sur une base de deux fois par mois. On va y aller comme ça pour partir. Donc, deux fois par mois, on va vous présenter l'émission Caviar sur BBN. Ça va être un show différent, une ambiance différente. On veut amener ça ailleurs avec des personnalités soccer que vous connaissez. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais vous allez voir, ça va être très, très, très intéressant. Michel qui nous dit « Merci Jeff, super comme toujours ». Ali qui nous dit « Salut ». Salut Ali, merci d'être passé. Tu arrives à la fin, mais c'est pas grave. Tu vas pouvoir réécouter le balado en formule audio-vidéo, comme tu veux. Il va être partout. Donc là-dessus, merci d'avoir été des nôtres et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour les prochaines diffusion. On va tout vous annoncer cela. Ciao, bye.